Nous remercions le Seigneur de ce que nous soyons capables de nous réunir à nouveau ici ce matin. Nous remercions également tous ceux qui sont réunis ici avec nous, peut-être pas physiquement, mais là où vous vous trouvez, dans vos foyers, que vous écoutiez en petit nombre, que ce soit un jour tout spécial pour vous également. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons remercier le Seigneur. Est-ce que vous remerciez le Seigneur? Chaque jour est un nouveau jour, une nouvelle raison pour remercier Dieu. Est-ce que vous pouvez remercier le Seigneur pour la semaine écoulée? Ou est-ce que vous êtes rempli de regrets? Vous êtes désolé pour la semaine que vous avez, la manière dont vous avez vécu la semaine dernière? Nous sommes reconnaissants si vous êtes venu ici à la mission ces jours-ci et nous souhaitons que vous pouvez expérimenter un temps béni ici dans ce lieu que le Seigneur a choisi et de glorifier son nom. Je sais qu'un certain nombre de personnes sont venues, peu importe d'où vous venez. Je sais qu'il y en a qui sont venus de l'Allemagne du Nord. L'un d'entre eux est ici avec sa fille. Nous l'avons connu quand il avait peut-être 7 ans. Maintenant, il a une fille adulte. C'est merveilleux si nous pouvons nous retrouver et entendre la parole de Dieu. Parler de reconnaissance. L'autre jour, j'ai été envoyée d'aller à Belito dans une pépinière pour aller récupérer un arbre, une plante. On m'a dit que l'arbre a 1,2 m de hauteur. Donc finalement, je suis arrivée, j'ai payé, je l'ai chargé, puis j'ai notifié, je vous prie note que derrière, un demi-mètre dépassait la remorque et que ça, c'était un arbre très, très spécial. Et j'ai dit, oh, je n'ai même pas de corde ou quelque chose pour l'accrocher. Donc j'ai roulé 100 ou 200 mètres et j'ai trouvé une corde ou un morceau de ficelle ou quelque chose juste pour accrocher ou pour fixer le bout de cet arbre qui dépasse, juste suffisamment de cordes que j'ai trouvées à côté de la route pour fixer afin que l'arbre ne soit pas endommagé. Et d'un coup, je me suis souvenue. Les feuilles vont être endommagées par le vent. Et je sais que cela n'est pas bon parce que les feuilles vont déshydrater. Et j'ai pensé que cela serait triste si cet arbre arrive ici, va être planté, est endommagé. Est-ce que cet arbre va-t-il grandir, pousser? Et je me suis dit, moi, je pouvais avoir quelque chose pour enrouler les feuilles et les branches tendres de cet arbre, l'envelopper dans quelque chose pour éviter que les feuilles soient endommagées. J'ai continué à rouler depuis la pépinière. J'ai traversé les champs de canne à sucre, arrivé à sur la petite route qui conduit sur la route nationale. Qu'est-ce que je vois le long de la route? J'ai trouvé tout un rouleau de vieux plastique. Et je crois que Dieu m'a sauvé de la situation. Dieu m'a permis de voir le plastique. Je l'ai pris et j'ai pu envelopper cet arbre avec tout ce plastique. Les jardiniers, quand ils vont planter cet arbre, seront contents qu'il soit arrivé ici en bon état, en ayant pris soin, et le Seigneur en a pris soin. Ceci est quelque chose d'insignificatif. Mais dans mon cœur, je dis, Seigneur, avant même de crier à toi, toi déjà tu sais ce dont nous avons besoin. Comme la Bible le dit dans le psaume, le Seigneur, Dieu entend notre cri. De ceux qui font appel à lui. Et je dis, dans les petites choses, nous pouvons voir le Seigneur et lui donner gloire. Et ça, c'est merveilleux. Cela fait partie de notre marche chrétienne, de voir Dieu travailler dans les moindres choses et dans les détails, dans les plus petits détails. Ne les ignore pas. Parce que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, comment est-ce que Dieu peut-il nous confier des choses plus grandes? Donc, n'oublions pas de remercier le Seigneur, même comme nous avons chanté pour sa mort sur la croix, c'est à travers sa souffrance que tout cela se trouve à notre disposition. Tout est pour nous. Ne soyez pas pauvres, mais soyez riches en reconnaissance à l'égard du Seigneur. avant que la chorale vienne chanter, prions ensemble. Seigneur Jésus, toi, tu te trouves au-dessus de notre compréhension et notre vue. Nous te remercions pour cette opportunité où tu peux toucher nos yeux, nos oreilles, afin de voir et d'entendre les choses qui viennent de toi. Nous voulons t'inviter et te demander, bénis les chants, bénis notre oui, afin que nous soyons enrichis et que toi, tu sois présent au milieu de nous. Nous demandons cela, Seigneur Jésus, à travers ta miséricorde et ta grâce. Amen. Le chant Zulu parle de l'évangile merveilleux qui m'a trouvé et qui a changé toute chose, a transformé ma vie. Et ma vie est dévouée au Seigneur et remplie de reconnaissance pour sa grâce. Je salue chacun ici présent ce matin au nom merveilleux de notre Seigneur et Jésus. Comme il a été dit, il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Et souvent, nous passons à côté des petites choses. Je ne sais pas si vous avez pris note. Certains ont peut-être, d'autres n'ont pas. Le tapis ici devant est un nouveau tapis. Peut-être pour certains, c'est une petite chose, mais pour nous, nous sommes reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Même dans les choses, dans les moindres, soyez fidèles. Ce matin, j'ai dû penser, il y a des gens qui fidèlement mettent de l'eau ici devant pour le prédicateur, pour le traducteur, et je veux les remercier pour cela. Peut-être tu fais quelque chose, personne ne le voit, mais Dieu le voit. Et que Dieu vous bénisse pour cela. C'est une chose effrayante de penser que je peux me tenir ici, lire la parole de Dieu et essayer de l'expliquer. La parole sainte de Dieu, la parole inspirée par le Saint-Esprit, et un homme qui n'est rien comme moi essaye de l'expliquer ou de la faire, de la transmettre. Cela semble être une tâche impossible. C'est ma prière et que Dieu parle, son Saint-Esprit parle. Et que nous soyons attentifs à ce que Dieu nous dit. C'est mon cri, et j'espère que c'est le cri de chacun ici ce matin. Ce matin, je voudrais parler sur la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu sur notre vie. Hier, j'ai pensé, que dit le dictionnaire sur le mot bénédiction? Comme j'ai ouvert le dictionnaire, il est dit la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. Un dictionnaire mondain qui dit « bénédiction », c'est la faveur de Dieu sur une personne. C'est étonnant comment souvent le monde sait mieux que nous, que ceux qui croient. Certains de nos fournisseurs, ils spécifient quelque chose qu'ils nomment un acte de Dieu. Cela veut dire que s'il y a une tempête, un orage, si quelque chose détruit quelque chose dont ils ne peuvent pas le remplacer, ils disent que c'est un acte de Dieu. Et je l'ai vu dans certains contrats où ils le nomment un acte de Dieu. Mais la bénédiction de Dieu sur notre vie et cela semble être étrange ce que je dis, que la bénédiction de Dieu doit être sur ma vie. Mais si je le sers et je fais tout pour lui plaire, si ma vie est dévouée complètement à Dieu, alors assurément, s'il est satisfait et content avec ma vie, il doit y avoir une bénédiction sur ma vie. Sûrement, s'il est satisfait de ma vie, sa faveur doit être sur ma vie. Ce n'est pas possible de dire je le sers et je veux faire le meilleur, mais qu'il n'y a pas de faveur sur ma vie. Et il n'y a pas de visibilité ou quelque chose qui a été éprouvé. Je ne parle pas de choses matérielles, bénédictions matérielles. Oui, Dieu peut nous bénir. Il peut nous donner des choses matérielles. Mais je parle de la bénédiction spirituelle. Une bénédiction où je sais Dieu approuve ou met son sceau sur ma vie et il est d'accord avec ce de ma vie. Je lis quelque chose de Spurgeon, un sermon que Spurgeon a prêché. Chers écouteurs, êtes-vous bénis en Christ? Est-ce que vous pouvez répondre personnellement à cette question? Ne transmets pas la question et tu te dis il y en a beaucoup qui sont bénis et d'autres ne le sont pas. Peu importe concernant les autres, mais pour le moment présent, pose-toi cette question à toi-même. Est-ce que je suis béni en Christ? Certains pensent qu'ils ont Christ comme leur sauveur, mais leur religion ne leur apporte aucune bénédiction. Écoutez cela, leur religion ne leur apporte aucune bénédiction. Peut-être tu es ainsi, où tu dis il n'y a pas de bénédiction sur ma vie. J'écoute, je vais. Ma foi ne m'apporte pas de bénédiction. Je vais à l'église, ils vont à l'église, dans la chapelle régulièrement et apparemment c'est une bonne sorte de personne. mais leur religion consiste dans une misère. Ils sont misérables. Le mot bénédiction n'entre pas dans leur esprit. Si Dieu est dans ma vie, automatiquement, je reçois une bénédiction. Si nous ne sommes pas bénis, peut-être nous passons à côté de la marque. Et si je peux le dire, peut-être si ma bénédiction, que je sois béni, est une mesure de ma vie chrétienne. Peut-être je suis dans la misère. Si ma religion ne me rend pas heureux, je devrais me poser la question si je possède vraiment ce Dieu qui donne la joie, parce que Dieu bénit l'homme. Oh, amis, nous avons tant d'épreuves et tant de problèmes, de soucis. Certains d'entre vous, je pourrais vous demander et témoigner. Et vous avez très peu de la joie du monde, peu de biens matériaux, mais ils peuvent dire, je suis béni en Dieu, en vérité, je suis béni. Il continue à dire, Spurgeon, si tu ne sais pas si tu es béni ou pas, alors probablement tu n'es pas béni. Parce qu'une personne qui est bénie par Dieu est bénie en vérité. Je suis l'enfant de Dieu. L'amour de Dieu est fixé sur moi et j'ai une portion dans la promesse de Dieu. Ça, c'est une personne bénie. Et ainsi, la question que je veux poser ce matin, es-tu béni en Christ? Et la réponse que tu dois te donner honnêtement, en toute honnêteté, réponds, est-ce que ma vie est-elle bénie ou pas? Qu'est-ce que je suis prêt à faire ou à sacrifier afin de garder cette bénédiction ou d'atteindre cette bénédiction? Donc, lisons une partie de l'Écriture très connue dans Genèse 32. À partir du verset 21, Genèse 32, verset 21. Je pense que nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Genèse 32, verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, pris ces deux femmes, ces deux enfants, ces deux servantes et ces 11 enfants et passa la gué de Jabbok. Et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face. » Et mon âme a été sauvée. Jacob a lutté avec un être céleste. Certaines traductions parlent d'un homme, d'autres parlent d'ange. Peu importe le cas, il a lutté avec un être céleste. Il a pris et, pour ainsi dire, a demandé la bénédiction. Moi, honnêtement, je peux dire, avant, je n'ai jamais compris comment un homme peut-il demander une telle bénédiction de la part de Dieu. C'est presque un ordre en anglais. De donner un ordre à Dieu, comment peut-il aller jusqu'à ce point, presque forcer une bénédiction sur sa vie? Même faire face à la mort. Nous savons dans l'Ancien Testament, il est dit, aucun homme ne peut vivre qui a vu Dieu face à face. Jacob le dit ici, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Jacob savait, j'aurais pu mourir ici. Ma vie aurait pu s'arrêter ici aujourd'hui. Mais je ne vais pas te laisser aller sans la bénédiction de Dieu. Il était dans une situation difficile. Ses frères auraient pu le tuer. Mais Jacob savait que si la bénédiction ne se trouve pas sur ma vie, alors je suis comme mort de toute manière. Si la bénédiction de Dieu n'est pas sur ma vie, je suis comme mort. Chers chrétiens, est-ce que la bénédiction de Dieu est-elle sur votre vie? Ou est-ce que ta vie chrétienne est si pourrie qu'il n'y a pas de bénédiction sur ta vie? Est-ce que ton état spirituel est-il dans un tel état que toi tu peux même pas dire ou savoir si la main de Dieu et la bénédiction de Dieu se trouvent sur ta vie? Jacob a probablement compris quelque chose que peu de chrétiens comprennent. Peut-être Jacob a compris le sérieux de la bénédiction de Dieu dans ma vie ou l'importance de la bénédiction de Dieu dans ma vie. Donc, permettez-moi de toucher certains points sur la vie de Jacob. Allons au chapitre 25 dans Genèse. À partir du verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. » Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ici, nous trouvons la naissance de Jacob. Mais nous lisons d'un combat pendant qu'ils étaient dans le sein de la mère. Matthieu Henry dit que le combat entre Jacob et Ésaü dans le sein représente le combat entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan dans ce monde. Il y a un combat spirituel dans tout ce que nous faisons. Là où je me trouve, où je parle, où je travaille, il y a un combat spirituel. C'est un combat constant et je devrais être conscient. Chaque jour, je devrais être conscient. Dans n'importe quelle situation, Satan sera présent et toujours présent et essaye son opportunité. Même si je parle avec mon ami, Satan va être présent et essaye. Même dans une bonne situation, elle a prié, elle a demandé pour des enfants. Et le Seigneur l'a béni et lui a donné des enfants. C'était une bénédiction de Dieu. Mais même dans le sein, dans cette bénédiction, il y avait déjà un combat. Il y avait déjà un combat entre le bon, le bien et le mal. Et si nous ne sommes pas conscients, et si ce n'est pas, et si on n'est pas conscient et constamment on y pense, Satan va nous attraper ainsi. Il y a un grand combat spirituel et nous devons en être très conscients. Matthew Henry dit un combat spirituel vaut mieux que la paix dans le palais de Satan. Et peut-être tu as la paix parce que tu te soumets à Satan. Peut-être tu as la paix parce que tu lui as permis de te dire de quoi faire et tu l'as écouté. Mais cela ne devrait pas nous décourager. Christ a formé dans l'âme de la personne, si nous donnons notre vie à Christ, le combat commence entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière. Il vaut mieux d'avoir des conflits avec le péché que de se soumettre au péché. Il y a un combat spirituel, peut-être un grand combat, peut-être plus grand qu'auparavant, et on doit en être conscient. Et si nous nous trouvons dans un combat, si je suis un soldat dans la guerre et je permets à l'ennemi d'être assis à côté de moi, est-ce que je vais permettre à l'ennemi d'entrer dans ma maison? Est-ce que je veux être près de l'ennemi? Ce serait qu'un insensé, un fou qui ferait une chose pareille. Jacob a tenu le talon d'Ésaü. Il y avait Ésaü, le plus fort, est venu le premier, mais Jacob, la main de Jacob, la main de Jacob a pris le talon. Cela signifie que Jacob déjà était conscient du droit de naissance ou le droit d'aînesse. Depuis sa naissance, il était conscient du droit d'aînesse. De tout petit, un bébé, avant qu'il savait ce qu'il faisait, Jacob avait le désir du droit d'aînesse. Est-ce que tu as le désir du droit de naissance de Dieu, que Dieu naisse dans ta vie? Est-ce que cela fait partie de ta vie et que tu dis « j'ai besoin » J'ai besoin de la bénédiction de Dieu sur ma vie. Tu peux aller le lire, je ne vais pas tout lire, mais dans le verset 31, il est question du droit d'aînesse. Dans Genèse 25, verset 31. Ésaü est venu, il avait faim, et Jacob lui a dit, « Je te donne ce plat de nourriture si tu me donnes ton droit d'aînesse. » Tu peux aller le lire, mais dans la Bible, Dieu dit, « Chacun d'entre nous, il nous donne le droit d'aînesse. » Le droit d'aînesse est une promesse, quelque chose que Dieu nous promet. Et si nous le suivons, nous recevons ce droit d'aînesse. Mais Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Combien ne vendons-nous pas notre droit d'aînesse pour les plaisirs temporaires? Si facilement nous vendons notre droit d'aînesse. À cause du temps, je ne vais pas le lire, mais va, lis Hébreux 12 à partir du verset 16. Il est question de péché. Il parle de l'immoralité sexuelle. Il parle de gens qui l'ont perdu, qui ont vendu ou qui ont perdu leur foi, qui sont tombés de la grâce. Les gens qui ont une racine d'amertume dans leur cœur. Et il dit, de telles personnes sont comme Ésaü qui ont vendu leur droit d'aînesse. Si toi, tu joues avec le péché, tu as vendu ton droit d'aînesse. Et pas seulement Ésaü a perdu son droit d'aînesse. La Bible nous dit, Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Ésaü. Lis-le dans la Bible. Dans Romains, Dieu a haï Ésaü parce qu'il a pris son droit d'aînesse à la légère. Mais nous, nous prenons le péché à la légère, nous faisons exactement la même chose. Nous jouons avec le péché. Nous savons ce qui est juste. Nous savons où nous ne devrions pas aller. Nous savons avec quoi nous ne devons pas nous préoccuper. Et on vend notre droit d'aînesse. dans Hébreu, il est dit, et quand Ésaü voulait se repentir, quand il est allé vers son droit, quand il a couru vers son père pour recevoir la bénédiction, il n'y avait plus de bénédiction. La bénédiction était donnée à Jacob et son père n'a pu que lui donner ce qui lui restait. Dans Hébreu, il est dit, avec des larmes, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. En d'autres termes, c'était trop tard. Ne joue pas avec le péché jusqu'à ce que cela soit trop tard. Parce que le temps va venir et ce sera trop tard. Et si nous sommes conscients du combat spirituel et Satan présent, alors nous veillons à chaque parole que nous prononçons, à chaque pensée que nous pensons, à chaque mot que nous prononçons. Je ne devrais même pas oser m'approcher de quelque chose au cas où je glisse et je tombe. Quand Ésaü a été dit, Isaac va le bénir, Rebecca était présente et rapidement elle a appelé Jacob et a dit, rapidement, prépare le repas afin que toi tu puisses être béni. Et j'ai pensé, quelle influence une mère n'a-t-elle pas sur la vie d'un enfant? Le rôle que joue une mère dans la vie d'un enfant, le rôle de la mère peut transformer le futur de l'enfant. Il était dit de Susanna Wesley, qu'elle a prié pour ses enfants au moins une heure chaque jour. Elle a pris une heure dans la journée pour prier pour chacun de ses enfants. Elle avait 17 enfants. En addition, elle a pris chaque enfant de côté pour une heure chaque semaine pour parler avec eux de choses spirituelles. Vous pouvez calculer 17 enfants, une heure par enfant, une heure par enfant. Et elle parlait de choses spirituelles avec cet enfant. Peu important, deux de ses enfants, Charles et John Wesley, ont été utilisés par Dieu pour apporter les bénédictions sur toute l'Angleterre et également en Amérique. L'influence d'une mère peut transformer une nation. L'influence d'une mère peut bénir une nation entière. Et j'ai pensé, combien de temps passons-nous avec nos enfants? Enseigner les choses de Dieu, de leur parler d'affaires spirituelles, leur demander, les confronter, comment vas-tu ou comment les choses vont-elles dans ta vie spirituelle? Nous lisons dans chapitre 32, tu peux le lire plus tard. Va et lis cette partie. Chapitre 32, verset 22, nous lisons que Jacob prit et passa le gué. Il a pris sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait. Il est retourné et il était seul. Deux choses que je voudrais dire sur ça. Premièrement, il a pris ses femmes et ses enfants et les a envoyés de l'autre côté. Il y a des choses, Marie, et femme qui n'est pas pour vous de savoir. Oui, nous sommes un, nous partageons des choses, nous demandons des choses, mais il y a certaines choses qu'un mari ne devrait pas prendre et en discuter avec sa femme. Moi, je pense très souvent la plus grande critique arrive entre un mari et une femme. Peut-être si tu es allé quelque part et tu reviens, la femme dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce que cela est allé, pas toute chose est pour cette conversation. Peut-être tu as conseillé quelqu'un et la femme veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a dit. Moi, je ne sais pas que dire. Jacob les a pris, même ses enfants. Parfois, nous partageons trop avec nos enfants. Nous les chargeons de choses qu'ils ne peuvent pas porter. Il y a des conversations, il vaut mieux demander les enfants, s'il vous plaît, pouvez-vous sortir de cette pièce? Ne les chargez pas de choses. Jacob a dû lutter seul. Nous ne lisons pas après qu'il a dit à partager et dit à sa famille ce qui s'est passé. On lit pas qu'il a critiqué son frère, mais il savait, c'est un cas, une situation entre moi et Dieu. Et parfois, c'est une situation entre moi et Dieu. Il vaut mieux que moi, je lutte seul avec Dieu que d'en parler avec d'autres. Parfois, j'ai besoin de recevoir direction et conseil de la part de Dieu, tout seul. Il y a un témoignage d'un homme et Dieu a commencé à travailler dans sa vie. Et pendant des mois, des années, le Seigneur l'a pris et il a mis les choses en règle partout là où il allait. Le Seigneur a pris des années en arrière où il a pu mettre les choses en règle là où il a mal fait, mal vécu, agi. Et après que tout a été fait, et il savait, il n'y a rien entre moi et Dieu, j'ai mis en règle tout ce que Dieu m'a montré. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais d'un coup, il s'est senti perdu. D'un coup, il a réalisé rien de ce que moi je peux, ce que moi je fais peut m'apporter le salut. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas mettre ta vie en règle ou laisser les choses. Il a fait exactement comme le Seigneur l'a conduit et lui a montré. Mais après avoir fait cela, il se sentait plus perdu qu'auparavant. Et il savait, c'est une situation entre moi et Dieu. Et j'ai besoin d'être seul avec Dieu. Et j'ai besoin d'obtenir son accord sur ma vie. Il a dit, il n'y a rien qu'il a fait que Dieu seul peut lui donner ce qui lui manque. Il est allé à genoux, il a prié, a dit, Dieu, je suis perdu, je me sens perdu. Je suis perdu, j'ai besoin de ton accord dans ma vie. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire, mais j'ai besoin de ta grâce. La première nuit, il n'a pas dormi. Il était devant Dieu. Il implorait Dieu. Le lendemain, la prochaine nuit, et même la troisième nuit, devant Dieu, j'ai besoin de ta bénédiction. Et le troisième jour, le fardeau s'est levé. Et il a dit qu'il pouvait sentir Dieu lever ce fardeau ou prendre ce fardeau. Et il ressentait la faveur de Dieu et il sentait l'accord de Dieu dans sa vie. Étais-tu seul? As-tu été seul avec Dieu, lutté seul avec Dieu, avec ton problème? Étais-tu là devant Dieu et tu sais, Dieu seul peut me sauver. Étais-tu là où tu as réalisé, où tu réalises, de moi-même je ne peux rien faire. Et si je n'ai pas l'accord de Dieu dans ma vie, je suis comme mort. Je ne vaux rien. Et si sa bénédiction ne repose pas sur ma vie, je suis comme mort. D'ici où Jacob savait qu'il ne peut prendre aucun pas sans la bénédiction de Dieu. Je ne peux pas prendre un pas si la bénédiction de Dieu ne se trouve pas sur ma vie. Genèse 32, verset 27. On l'a lu au commencement. Je le lis dans la traduction Amplified et je lis ce que cela dit. Je ne l'ai pas lu au commencement. Il est dit, l'homme lui a demandé, quel est ton nom? Et maintenant, il est dit, et en choc de réaliser, soufflé, il a dit Jacob. Donc c'est une traduction Amplified qui dit cela. Il a chuchoté son nom. Jacob, en choc, il a été choqué, il a réalisé quelque chose, il a chuchoté comme s'il était embarrassé. C'est moi qui rajoute le mot embarrassé. Ce n'est pas dans toutes les traductions. Puis il est dit, après Jacob, il est dit, quelqu'un se plante, c'est une personne qui prend quelque chose de quelqu'un. Certains disent qu'ils volent des autres. Il est dit, quelqu'un qui essaye de prendre et c'est des mots que j'arrive pas à traduire, qui pense du mal de l'autre et qui pense. Et s'il y a d'autres versets dans la Bible qui fait référence à cela, dans Osée, et qui fait référence exactement à ça. Une autre signification pour Jacob, c'est quelqu'un qui vole de quelqu'un d'autre. Et en choc de réaliser, il a chuchoté, Jacob, quelqu'un qui fait qui te fait quelque chose, mais en mal. Et peut-être cela est le secret pour la bénédiction de Jacob. Et pas le seul, définitivement l'un d'entre eux. Où Jacob a réalisé et réalise qu'il est un pécheur. Où Jacob, en choc, dit, « Ça, c'est qui je suis. » Je suis un pécheur. Je suis quelqu'un qui trique le prochain et qui piège le prochain. Dieu connaissait son nom. l'ange savait qui il était. Mais il lui a dit, « Qui es-tu en réalité ?» Et peut-être cela est le point où Jacob a réalisé qui il était en réalité. As-tu et est-ce que nous avons réalisé, toi et moi, qui nous sommes en réalité? Est-ce que cela est réalité pour toi, qui tu es aux yeux de Dieu? Que nous sommes nés dans le péché. Nous sommes pécheurs. Que nous le laissons, que nous abandonnons Dieu. Il est fidèle, mais combien de fois est-ce que nous ne le laissons pas? Et peut-être c'est pour cette raison que Dieu a pu bénir Jacob. Peut-être c'est la raison pour laquelle Dieu a pu le bénir là, dans ce lieu, parce que Jacob s'est vu tel que Dieu l'a vu. Est-ce que tu t'es vu à travers les yeux de Dieu? Quand tu continues à nager dans ton péché, est-ce que tu te vois à travers les yeux de Dieu? Quand tu continues à jouer avec Dieu, est-ce que tu te vois dans les yeux de Dieu? Est-ce que c'est pour cette raison que tu n'es pas béni? Parce que tu ne t'es jamais vu dans la vraie lumière et dans la lumière de Dieu. Et tu n'as jamais accepté et admis que tu es un pauvre pécheur. Et tu n'as jamais été devant Dieu et a dit, « Dieu, je ne suis rien. Je suis un pauvre pécheur. » Peut-être c'était le cœur de Jacob. Son cœur s'est adouci et qui a fait que Dieu lui a donné la bénédiction. Son cœur s'est attendri. Nous avons besoin d'un cœur attendri. Pas des cœurs de pierre, mais des cœurs tendres. Et qui réalisent combien le péché est que, à cause du péché, je ne suis rien sans la grâce de Dieu. Et si Dieu ne nous sauve pas, et si ce n'est pas lui qui nous touche, nous ne sommes rien. Et sans cela, nous sommes condamnés à la mort. Chers chrétiens, est-ce que ta vie demande une bénédiction? Est-ce que ta vie devant Dieu, pour ainsi dire, demande, ordonne à Dieu une bénédiction ou ordonne de la part de Dieu une bénédiction? Est-ce que cela peut-il être ainsi qu'il nous regarde et qu'il dit, je ne peux pas faire autrement que de bénir cette personne? Peu importe ce que je fais, même si je suis seul, est-ce que Dieu peut me regarder et dire, je ne peux pas faire autrement que de bénir cette personne? Si nos vies ne sont pas ainsi, nous sommes comme morts. Si je ne peux pas dire que la bénédiction de Dieu se repose sur ma vie, alors je passe à côté de la marque. Cher chrétien, est-ce que la bénédiction de Dieu se trouve-t-elle sur ta vie? Es-tu prêt à sacrifier ce qui se trouve entre toi et Dieu? La Bible dit, Dieu a touché sa hanche et il a boité jusqu'à la fin de ses jours. Et Spurgeon a dit, Jacob aurait pu toucher chaque os ou chaque partie de son corps s'il n'avait pas, et il aurait pu passer à côté de la bénédiction. Même si Dieu aurait brisé chaque os dans son corps, aussi longtemps que j'obtiens la bénédiction de Dieu, je suis prêt à me faire briser chaque os dans mon corps. Est-ce que la bénédiction de Dieu se trouve-t-elle sur ta vie aujourd'hui? Si tu ne peux pas dire cela, alors repens-toi aujourd'hui, avant que cela ne soit trop tard. Nous remercions le Seigneur pour un Jacob qui était prêt à mourir à tout, à envoyer de l'autre côté de la rivière. Il était prêt à tout donner à cause de ce qu'il cherchait et à cause de la chose à laquelle il aspirait. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu es accroché et c'est un combat, tu ne peux pas laisser aller? Une fois que tu laisses aller, alors Dieu peut te demander quel est ton nom. Est-ce que tu lui as dit ton nom et qui tu es en fait? Parce qu'il veut te donner un nom nouveau. Un nom nouveau. Chacun dans l'Église devrait porter et devrait avoir un nouveau nom. Tu as honte à cause du christianisme si tu portes encore ton vieux nom. Et donne-lui, dis-lui ton nom. Pourquoi est-ce que tu veux cacher la vérité de la face de Dieu? Si tu as toute honte, Dieu aura honte de nous. Jacob était prêt à mourir à son soi et à lui-même. Il a cherché l'intérêt de Dieu pour sa vie. Mais comme nous avons entendu, il ne s'est pas reposé jusqu'à ce que Dieu a mis une marque sur sa vie. Il a boité à partir de ce jour. Nous remercions le Seigneur pour ce sermon et que ce ne soit pas en vain. Prions ensemble. Seigneur, agis à travers la puissance de ton nom dans la vie de chacun. Que tu puisses trouver parmi nous et si possible tous que nous ayons ce désir, le même désir qu'avait Jacob. Agis au milieu des enfants. Agis parmi les pères, agis parmi les mères, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur soit avec vous et vous garde. Et si vous voulez de l'aide, allez vers la personne qui peut t'aider. Pas vers quelqu'un qui est tendre à ton égard et qui n'est pas ferme. Pas vers celui qui est strict. Afin que ton nom soit changé par la grâce de Dieu. Merci.